RFI, 9h à Paris et Belgrade, 8h en temps universel. Et un nouveau journal avec Juliette Pietraszewski.
En Serbie, une colère qui ne faiblit pas. Une nouvelle manifestation est prévue aujourd'hui contre la corruption et pour un état de droit, expliquent les manifestants. En cause, l'effondrement il y a quelques semaines du toit d'une gare dans le nord de la Serbie, laissant derrière près de 15 morts. La Syrie affine son gouvernement de transition 2 semaines après la chute du régime de Bachar el-Assad. On connaît désormais le nom du nouveau chef de la diplomatie. En parallèle, en Jordanie, l'aide humanitaire aux Syriens s'organise. Reportage à suivre. Dans ce journal également au Tchad, le général Déby élevé au rang de maréchal. La cérémonie officielle a eu lieu hier après-midi dans la capitale tchadienne. On fera le point avec notre correspondante. Et puis l'intelligence artificielle pourrait consommer jusqu'à plus de 10% de l'électricité américaine d'ici 3 ans. On décrypte cette étude en fin de journal. En Serbie, le président affirme qu'il ne reculera pas devant les protestations. Ce dimanche, à Belgrade, un grand rassemblement est à nouveau prévu. Les lycéens, étudiants et agriculteurs seront dans les rues contre la corruption et pour un état de droit, explique-t-il. Le mouvement populaire anti-corruption s'étend depuis plusieurs semaines. À l'origine de la colère des manifestants, l'effondrement du toit d'une gare dans le nord de la Serbie qui a tué 15 personnes. Aucun responsable n'a été traduit en justice. Les manifestants demandent l'ouverture d'une enquête. Correspondance à Belgrade de Laurent Rouy.
Pour la première fois samedi, les agriculteurs ont rejoint le mouvement étudiant contre la corruption lors de la manifestation de Novi Sad. Et ce d'une façon originale, puisqu'ils ont cuisiné 1200 portions d'un plat typique de haricots pour le distribuer aux étudiants et aux lycéens qui manifestaient dans une ambiance bon enfant. Le rejet de la corruption et de l'impunité, deux des marques du régime populiste du président Aleksandar Vučić en place depuis 2014, mobilisent de plus en plus dans la société serbe. Les syndicats d'enseignants se sont ainsi solidarisés, de même que les travailleurs d'une importante mine de charbon, ainsi que les comédiens du théâtre national. En face, le régime, qui ne parvient pas à désamorcer la crise, a tenté de stopper le mouvement lycéen en avançant la date des vacances scolaires. Il a aussi promis aux étudiants des prêts immobiliers subventionnés, le tout sans résultat. De nombreuses organisations appellent à une forte participation à la manifestation de ce dimanche. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
En Albanie, la fin programmée du réseau social TikTok. Le Premier ministre Edi Rama a annoncé hier que le réseau serait fermé dans le pays pendant au moins un an à partir de début 2025. Il a également qualifié TikTok de réseau voyou, diffusant, je cite, des saletés et de la boue. Cette décision de l'Albanie intervient après la mort d'un élève de 14 ans lors d'une rixe près d'une école de Tirana, après un conflit sur les réseaux sociaux. C'était il y a quelques semaines. Par la suite, dans le pays, un débat entre parents, psychologues et établissements scolaires serbes avaient lancé un débat en Albanie avait lancé un débat concernant l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a affirmé hier avoir vu le directeur de la CIA, William Burns, en Ukraine. Pour rappel, ce type de rencontre est rarement dévoilé depuis l'invasion russe dans le pays. Et le spectre de Donald Trump plane quant à la suite du conflit russo-ukrainien. Jusqu'ici, les États-Unis ont été le plus important soutien financier et militaire de Kiev. Washington aurait également régulièrement partagé des renseignements militaires avec l'Ukraine. Or, avec l'arrivée prochaine du nouveau président américain, le flou persiste sur une possible sortie de guerre. À l'heure où Donald Trump s'oppose à l'utilisation d'armes américaines sur le sol russe et à l'heure où il dit vouloir des accords de paix entre Kiev et Moscou qui pourraient s'avérer favorables à la Russie. La Syrie, à présent, 2 semaines après la chute du régime de Bachar el-Assad, de nouveaux ministres dans le gouvernement de transition, à savoir le ministre des Affaires étrangères, Assad al-Shibani. Un nouveau ministre de la Défense a également été nommé. Par ailleurs, dans le nord-est de la Syrie, 5 civils ont été tués dans des frappes de drones turcs, a rapporté hier une ONG. À noter que depuis la chute de Bachar el-Assad, la Turquie soutient une offensive de groupes armés contre les forces kurdes. Ces dernières contrôlent une partie du nord de la Syrie. Et plus globalement, face à la situation humanitaire dans le pays, qui a vécu 13 ans de guerre civile, la Jordanie fait un geste fort de solidarité. Un convoi d'aide humanitaire a été envoyé pour soutenir les populations touchées, de quoi marquer un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Reportage de notre correspondant en Jordanie, Mohamed Erami.
La Jordanie a envoyé une caravane de 10 camions, près de 200 tonnes d'aide humanitaire au Croissant Rouge syrien pour soutenir le nouveau gouvernement après la chute de Bachar el-Assad. Cette première livraison marque le début d'une série incluant des fournitures médicales, selon Hussein El-Shibli, humanitaire de la Fondation Hachemit.
Cette première caravane sera suivie d'autres qui seront distribuées dans plusieurs régions. Nous commencerons dès maintenant à ouvrir la porte aux dons et à l'aide du peuple jordanien pour les frères et sœurs en Syrie. Et cela se poursuivra jusqu'à ce que ce pays retrouve sa stabilité.
Les aides jordaniennes, selon l'expert économique jordanien Obeida Rabhi, contribueront à soutenir les familles touchées par le conflit armé qui dure depuis plus de 13 ans et permettront aux déplacés de recevoir de la nourriture dans un contexte où les organisations humanitaires étaient empêchées de travailler en Syrie jusqu'à présent.
Les aides sont adaptées aux besoins des familles syriennes touchées, notamment car des milliers de foyers vivent dans des conditions particulièrement difficiles en raison des conflits militaires et politiques, surtout dans les régions qui étaient hors du contrôle du précédent régime syrien.
La Jordanie cherche à établir de bonnes relations avec le nouveau régime syrien, d'autant plus que la Syrie représente un axe économique stratégique pour la Jordanie. Grâce à la frontière commune, les marchandises peuvent désormais être exportées vers la Syrie, le Liban, la Turquie et même l'Europe. Mohamed Erami, Amman, RFI.
Toujours au Proche-Orient, le pape François a condamné hier la cruauté d'une frappe aérienne d'Israël à Gaza et dans laquelle 7 enfants ont perdu la vie selon la défense civile du territoire palestinien. De son côté, Israël dénonce deux poids, deux mesures. Le ministère israélien des Affaires étrangères dénonce également des remarques, je cite, « décevantes » selon un communiqué. Direction N'Djamena, le président Mahamat Idriss Déby est désormais maréchal du Tchad. La cérémonie officielle a eu lieu hier après-midi dans la capitale tchadienne. À 40 ans, le président a été élevé à la dignité de maréchal. Son père avait attendu 30 ans à la tête de l'État pour le devenir. Son fils, lui, n'aura passé qu'un peu plus de 3 ans au pouvoir. Un symbole fort qu'il inscrit dans la continuité du père et qui permet au maréchal du Tchad de valider une nouvelle étape importante pour la succession dynastique. Dans le pays, certains soutiennent leur président, d'autres y adhèrent moins. On en parle avec Nadia Ben Mahfoud.
C'est avec une fierté raffirmée que j'adhère à la résolution du Conseil national de transition qui m'élève à la dignité de maréchal du Tchad.
Et c'est ainsi que Mahamat Idriss Déby Itno est célébré comme le deuxième maréchal du Tchad. Cape bleu et or sur les épaules, bâton étoilé à la main, casquette et lunettes de soleil, c'est avec tous les attributs d'un maréchal qu'il a quitté le tapis rouge déroulé pour l'occasion. Des images retranscrites en direct à la télévision tchadienne, cet entrepreneur de la capitale n'en a raté aucune miette. Abba Ali.
C'est amplement mérité et nous tous, nous, c'est ce que nous avions dans le cœur et c'est ça qui a été décidé. Donc c'est un moment de bonheur et de joie pour tout le monde.
Mais cette maréchalisation ne fait pas l'unanimité. Sur les réseaux sociaux ou dans les rues de N'Djamena, nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour critiquer. Noureddine.
Ça ne sert à rien. Le fait d'être maréchal, bon, c'est bon pour lui et pour certains, mais ça ne change pas le pays. Nous, on veut vraiment quelque chose qui va à l'intérêt de la population. Embellir ces pays-là et rendre la population heureuse.
Avec désormais un maréchal à la tête du Tchad, le pays reprend la campagne législative, provinciale et communale en cours. Les candidats ont une semaine pour convaincre les électeurs avant que les votes n'aient lieu le 29 décembre prochain. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
L'intelligence artificielle est gourmande en énergie, mais on ne pensait pas qu'elle l'était à ce point-là. L'IA et les centres de données pourraient consommer jusqu'à plus de 10% de l'électricité américaine d'ici 3 ans. C'est une étude soutenue par le département américain de l'énergie qui le relève et ça pose de sérieux défis quant à la robustesse du réseau du pays, Simon Rosé.
L'annonce avait fait du bruit en septembre dernier. Microsoft déclarait vouloir relancer la centrale nucléaire de Three Mile Island, fermée depuis 5 ans. L'objectif, assurer les besoins en électricité des centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle. Un exemple de la quantité toujours plus colossale d'énergie que réclame cette technologie. Et ce n'est que le début, ces besoins vont tripler d'ici 2028. Selon cette étude, le secteur consommera alors 12% de l'électricité produite aux États-Unis. Il faudra que les moyens de production suivent, d'autant plus que la demande est également croissante dans d'autres domaines à mesure que le pays s'électrifie, notamment dans les transports et le bâtiment, afin de décarboner l'économie. Pour répondre à cet enjeu, les auteurs de ce travail proposent plusieurs pistes, allant de l'installation de batteries longue durée sur les sites des centres de données, jusqu'à la mise en place de mini-réacteurs nucléaires, même si cette technologie n'est pas encore mature et cherche encore son modèle économique. Enfin, autre option envisagée, travailler sur l'efficacité énergétique de ces centres pour les rendre moins gourmand.
Les explications de Simon Rosé, RFI. Il est 9h10 sur RFI.